les mots des religions. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Bonjour Haïm Korsia.
Bonjour.
Bonjour. Aujourd'hui, vous avez choisi le mot « mensonge ». Comment apparaît-il dans la Torah ? Souvent, sûrement ?
Il apparaît dès le début, en fait. Plutôt que le mot, d'ailleurs, c'est le concept. Le mensonge apparaît lorsque le serpent, d'après la tradition, explique à Ève qu'elle peut s'approcher puis manger le fruit de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal, alors que Dieu l'a interdit. Et donc, c'est le mensonge qui déstabilise l'unité du couple. En réalité, vous voyez cette histoire qu'on a tous appris dans nos traditions dès le plus jeune âge, qu'on a un peu romancée. En gros, l'histoire qu'on raconte, c'est Adam explique à Ève, voilà ce que Dieu a dit, et puis le serpent la tente, lui dit, il n'y a aucun risque, et elle mange, et puis elle voit qu'il ne se passe rien, donc elle convainc son mari de manger. C'est une histoire un peu simpliste, en réalité, les commentaires.
Alors, quelle est la vraie histoire ?
La vraie. Et j'y étais pas, hein, malgré mon âge avancé, je n'y étais pas.
Non, mais je suppose que le judaïsme a tout de même beaucoup réfléchi sur cette histoire.
Oui, beaucoup. Et voilà une interprétation assez extraordinaire qu'il nous propose. Le Midrash, donc c'est le commentaire allégorique de la Bible, explique que tout est venu d'une forme d'infantilisation de la femme par l'homme. C'est-à-dire, en fait, l'homme n'est pas créé le premier, c'est un humain qui est créé. Adam est un humain, comme le dit le verset de la Bible, homme et femme, il est créé. Et ensuite, Dieu lui prend une côte, sépare en deux ces deux identités, et il y a une femme et un homme. Mais l'homme, puisqu'on n'a pris qu'une côte de lui, s'estime plus légitime, s'estime premier. Et donc, quand il transmet l'ordre que Dieu a donné, tu mangeras de tout, mais de l'arbre de la connaissance, tu ne mangeras pas, il lui dit, tu n'en mangeras pas et tu n'y toucheras pas. En se disant, comme un enfant, quand vous ne voulez pas que votre enfant touche le feu sur la cuisinière, vous lui dites, non seulement ne touche pas le feu sur la cuisinière, mais n'entre pas dans la cuisine. C'est-à-dire que vous mettez une barrière.
Une double barrière,
exactement.
En fait. Et donc là, on ne touche pas.
Et c'est étonnant. Dieu lui dit, tu n'en mangeras pas. Et lorsqu'il retransmet l'ordre, on le voit dans la Bible, hein, c'est pas un commentaire, ça, c'est clairement les mots. Il est dit, Ève dit que Adam lui avait interdit d'en manger et d'y toucher. Le serpent, dit le commentaire, pousse Ève sur l'arbre. Elle voit qu'il ne se passe rien quand elle le touche. Elle se dit, si il m'a menti là-dessus, alors il m'a aussi menti sur manger. Et donc elle en mange, il ne se passe rien. Mais on pourrait se demander, mais pourquoi Adam, alors lui, en a mangé? Puisque lui, il sait que Dieu interdit. Mais s'il lui dit qu'il sait que c'est interdit, il sera obligé de lui avouer qu'il l'a infantilisé. Et donc en fait, c'est une
forme... Il l'infantilise quand il ne lui dit pas la vérité, justement.
Oui, exactement.
Il ne lui dit pas la totalité de l'interdiction et de la vérité.
Hélène, vous avez parfaitement résumé ma pensée, on infantilise quelqu'un quand on ne lui dit pas la vérité. Et peut-être que l'idée qui débute avec cette histoire dans la Bible, c'est qu'il faut être capable de parler une parole de vérité. Et Dieu parle aux hommes une parole de vérité. Il est dit, tu donneras la vérité à Jacob. Alors que chaque patriarche est porté par une caractéristique. Abraham, c'est la magnanimité, la bonté, l'ouverture à tout le monde. Isaac est pétrifié par la peur, c'est-à-dire la peur de mal faire. Parce que quand on est le fils d'Abraham, c'est difficile. Mais Jacob, c'est la vérité. Et la vérité, ça s'oppose au mensonge. Et donc, on a Jacob qui incarne ensuite dans la Bible la vérité. Il habite où ? Il va chercher sa femme chez Laban, son oncle. Vous savez, il prend les deux filles, Rachel et Léa. Et Laban, c'est l'homme qui incarne le mensonge dans la Bible.
Parce qu'il ment à qui, alors, Laban ?
À tout le monde.
À tout le monde.
À tout le monde. Laban ment à tout le monde. Et l'exemple le plus amusant, mais un peu tragique quand même, c'est que Jacob est raide amoureux de Rachel, la petite. Et donc, il célèbre au bout de 7 ans de travail, il célèbre les noces, parce qu'au bout de 7 ans, Laban accepte de donner sa fille à Jacob. Et la tradition voulait à l'époque que la femme était voilée. Donc, Jacob se marie, et le lendemain matin, il se rend compte que ce n'est pas Rachel, la petite, c'est Léa, la grande, qu'il a épousée. Il se retourne vers son beau-père en lui disant, mais enfin, qu'est-ce qui se passe? J'ai travaillé 7 ans pour toi pour épouser la petite, et tu me donnes la grande. Et Laban lui répond, même s'il n'est pas corse, mais d'une manière qu'on imagine tellement portée par les Corses, chez nous, petit, on ne marie pas la petite avant d'avoir marié la grande.
C'est oui,
marqué comme
ce
ça.
Qui est une
il
vraie
n'est
tradition.
Pas coutume chez nous que de marier la petite avant de marier la grande.
Mais il l'a trompé.
Il a trompé son gendre, et vous savez que c'est là l'origine qu'on a jusqu'à aujourd'hui dans le judaïsme. Que le marié a la tradition de soulever le voile de la mariée juste avant la cérémonie, en quelque sorte, pour s'assurer que c'est bien la femme qu'il aime, qu'il va épouser.
Est-ce qu'il y a d'autres grands personnages dans la Bible qui, justement, mentent, entretiennent avec le mensonge, une relation fréquente, malheureusement ?
Alors,
ou mentent pour une bonne cause, on peut aussi mentir.
On y arrive. Jusqu'à maintenant, j'ai présenté le mensonge comme étant l'inverse de la vérité. Personne ne porte plus la vérité, évidemment, que Dieu. Dieu est vérité. Dieu est vérité. Absolue vérité. Et pourtant, on a un exemple où Dieu ment. Ah. Et c'est quelque chose d'assez merveilleux, touchant. Vous savez, lorsque les anges viennent rendre visite à Abraham, l'un des trois lui dit « Dans un an, tu auras un enfant de ta femme, Sarah. » Et la Bible dit « Sarah rit. » Elle entend ça. D'ailleurs, Sarah rit en se disant « Est-ce que mon mari est âgé ? Est-ce qu'à son âge, il pourra avoir un enfant ?» Dieu dit à Abraham « Comment ça ?» Tu as entendu ? Sarah rit en disant « À mon âge, j'aurai un enfant. » Commentaires disent « Mais c'est pas ce qu'elle a dit. » Elle n'a pas dit « Moi, Sarah, à mon âge, à moi, 90 ans, je vais avoir un enfant. » Elle dit « Mon mari est vieux. » Et les commentaires disent « Dieu lui-même, parfois, transforme la réalité pour ne pas faire de peine à Abraham. » Ce qui laisse entendre que parfois, il faut savoir que présenter la vérité peut faire plus de mal, non pas que de mentir, mais que des fois, on n'est peut-être pas obligé de dire les choses aussi crûment, aussi froidement. Et on le voit dans la vie, avec des situations tragiques comme celle qu'un médecin peut rencontrer quand il doit dire ce qu'il en est de la maladie à quelqu'un. Je refuse qu'il y ait un dogme.
On contourne un peu la vérité ou on la dit ?
Dire la vérité, ne pas dire la vérité. On ne peut pas établir une règle absolue en la matière. Tout est une question de situation humaine. Et en fait, le mensonge et la vérité dans le monde des hommes est souvent une question d'appréciation. Ce que je peux vous dire, c'est que les personnages qui mentent sont des personnages, dans la Bible, sont des personnages qui ne sont pas forcément des modèles. Et que le seul dont on voit qu'il tourne légèrement la vérité pour ne pas faire de peine à l'intérieur d'un couple, ce qui prouve l'importance de la vérité dans le couple, eh bien, c'est Dieu qui nous montre l'exemple que parfois il faut savoir ne pas jeter la vérité en pâture aux uns aux autres sous prétexte d'absolu, sans s'intéresser aux dégâts qu'il y aura par la suite.
Vous disiez que le mensonge, c'était effectivement le contraire de la vérité, mais le mensonge, effectivement, dans le couple, c'est souvent l'adultère. Ça va ensemble ? Est-ce que dans la Bible, c'est la même situation ?
À un point, vous ne pouvez pas imaginer, parce que quand vous analysez les tables de la loi, donc il y a 10 commandements, 5 et 5. Le premier donc, est en face du sixième. Premier commandement, je suis l'Éternel, en face, tu ne tueras point. Celui qui tue, c'est d'une certaine manière quelqu'un qui se prend pour Dieu. Il a le droit de vie ou de mort sur les autres. Ensuite, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, et en face, tu ne commettras pas d'adultère. De la même façon que tromper sa femme, c'est le même principe que tromper Dieu, c'est-à-dire tromper l'engagement qu'on a envers lui. Mentir, c'est s'opposer à Dieu, c'est-à-dire c'est présenter une vérité ou dire des choses qui sont fausses. Or, mentir, ça se fait par la parole. Or, la parole est créatrice puisque Dieu a créé le monde par la parole. Donc, quelqu'un qui dévoierait sa parole proposerait une sorte de réalité virtuelle, puisque chaque fois qu'on a une parole, elle est créatrice d'une réalité, proposerait une réalité virtuelle qui s'oppose à la vision que Dieu a proposée, a donnée au monde. Et je crois qu'il faut avoir conscience que dire la vérité, c'est-à-dire ne pas mentir, c'est poursuivre le projet divin.
Vous me faites réaliser que le positionnement des commandements dans les deux tables de la loi, ça a un sens.
Bien sûr.
Je n'avais jamais réfléchi à cela.
Vous avez par exemple deux autres idées rapides. Il y a 5 et 5 commandements. Les 5 premiers sont les commandements qui relèvent du rapport entre l'homme et Dieu. Et les 5 derniers sont ceux qui relèvent du rapport entre l'homme et l'homme et son prochain.
Mais vous dites toujours que c'est la même chose. Enfin, c'est oui. Pas la même chose, mais c'est...
Mais vous remarquez qu'ils sont en comparaison. Et vous remarquerez même que le cinquième, honore ton père et ta mère, ça relève en réalité du rapport entre l'homme et Dieu. Parce qu'honorer son père et sa mère, c'est savoir qu'on doit quelque chose à quelqu'un, or on doit tout à Dieu. Donc, c'est intéressant. Et puis, il y a une correspondance horizontale. Chaque commandement, finalement, est en corrélation avec celui qui est en face de lui. Et ça donne, si vous voulez, un éclairage nouveau aux 10 commandements. Et puisque j'en suis là, vous me permettez de conclure sur le troisième et le huitième commandement, donc ils sont face. Hein. Le troisième, c'est « Tu n'invoqueras pas mon nom en vain. » Et en face, « Tu ne voleras pas. » Quel rapport ? Celui qui vole va jurer qu'il n'a pas volé et risquera de prononcer le nom en vain. Le neuvième, « Tu ne porteras pas de faux témoignages. » En face, « Tu respecteras le Shabbat. » C'est-à-dire que porter un faux témoignage, c'est-à-dire mentir, c'est ce qu'on fait quand on ne respecte pas le Shabbat, c'est-à-dire qu'on ne respecte pas le rythme que Dieu a demandé aux hommes, qui est 6 jours vous travaillerez, le 7e vous arrêterez, parce que moi l'Éternel, 6 jours j'ai mis pour créer le monde, 6 temps, et le 7e j'ai arrêté. Donc en respectant les rythmes de la vie que je vous propose, vous témoignez du fait que c'est moi qui ai créé le monde. On pourrait transposer simplement en disant, porter dans sa vie le mensonge, c'est nier le fait que Dieu a créé le monde et que Dieu, qui est Dieu de vérité, pilote le monde.
Merci à Haïm Korsia de nous avoir éclairé sur ce mensonge. Et c'est promis, on va essayer de ne plus jamais mentir. C'est très dur. En tout cas, à la radio, on essaie au moins.
Vous recommencez.
Voilà, je commence. On essaie au moins de ne pas trop mentir. Merci infiniment. À bientôt. Ouais.